Bonjour Marco, compte à rebours. Compte à rebours, eh bien oui, des contes, des histoires. Comme toujours, comme tous les mercredis à 12h35, hein, quelque chose comme ça. Et puis c'est rediffusé le dimanche aussi, le soir par contre vers 18h. Compte à rebours, aujourd'hui, alors on a toutes sortes de choses, parce que des contes c'est un mot qui est large, ce sont des histoires au fond, des histoires de toutes sortes, mais... La semaine dernière, rappelez-vous, j'avais conté un conte merveilleux, le poisson arc-en-ciel qui nous venait des îles Vanuatu. Et j'ai une lectrice, parce que j'ai une auditrice, plutôt je dis toujours une lectrice, mais j'ai une auditrice, c'est toujours la même, hein, qui m'écrit, donc ça permet d'avoir un dialogue. Elle me dit, c'est bien joli, les histoires que vous comptez, mais c'est toujours Vanuatu, Nouvelles Hébrides. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein, je signale à ceux qui voudraient comprendre la géographie en des antipodes. Mais quand est-ce qu'on a des bons contes de chez nous? Oui, c'est toujours la même qui me dit ça, des bons contes de chez nous. À quel point est-elle de chez nous? Parce que j'ai choisi un conte merveilleux, qui est un conte traditionnel de Gascogne, qui a été recueilli, alors vous le savez peut-être, il y a eu un certain Bladet, Jean-François Bladet, qui a recueilli, mais il y a longtemps, hein, c'était au 19e siècle. Donc il a recueilli des contes en pagaille dans la Gascogne auprès de tout un tas de gens, notamment Blaise Sens. Là, ce conte a été recueilli avant 1886, et ce sont des contes qui ont toujours été considérés, notamment par certains spécialistes comme Déodat Rocher, des contes comme étant cathares. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette influence cathare? Vous savez, aujourd'hui, on est aux prises avec des interrogations sur la religion. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des religieux, il y en a qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et il faut savoir que les cathares ont été aussi une histoire de France. Pas forcément reluisante, hein, puisqu'il y a eu quand même, je vous le rappelle, quelques bûchers, notamment à Montségur, etc. Bon, enfin bref, il y a eu des guerres civiles en France autour de la religion. Les cathares avaient une vision différente, l'église romaine était quasi impérialiste, et bon, tout ça, ça a donné des affrontements qui, au fond, n'étaient pas forcément motivés au départ par la religion, mais plus des intérêts de pouvoir, des intérêts politiques. Alors, on s'est servi des prétextes de religion. En quoi ces contes seraient cathares? Et disons qu'on y trouve une vision de l'homme qui serait proche de la philosophie cathare. Alors là, je vous laisse apprécier, je vais raconter l'histoire. De toute façon, c'est une histoire de pou, une histoire qui s'intitule « Le pou », hein, c'est pas n'importe quel pou. Et je vous laisserai déterminer dans quelle mesure ça peut être cathare. Mais il faut se rappeler quand même que pour tous les contes, et c'est la même chose, et le conte merveilleux notamment, il faut se rappeler que ce ne sont pas des contes qui nous racontent une histoire qui est complètement en dehors de nous, et qu'on écoute, et qu'on dit « ah c'est bien », mais c'est normalement une histoire qui nous parle de nous, de notre intérieur. Et tous les personnages que l'on voit apparaître dans les contes merveilleux sont aussi des aspects de notre intérieur, sont des personnages intérieurs. Et vous, vu sous cet angle, l'évolution du personnage, sa quête, qui c'est qu'il aide, etc., peut être vue comme l'évolution d'un homme qui s'interroge sur la vie dans le cadre, éventuellement, d'une influence cathare ou pas. En tout cas, voici le pouls après tous ces débats. Mais je dis aussi, je rappelle encore qu'il en va des contes comme des paysages. On ne compte plus les bouches ou les mains qui les ont travaillées. Certains contes portent des traces uniques. Des orfèvres les ont ciselés à perfection. quels étaient leurs noms ? Bélibast ? Le bonhomme Barlam ? Quelques troubadours, des corbières ou un vieux paysan de Gascogne ? On ne sait pas, on ne sait plus. Mais qu'importe ? Qu'importe si le joyau nous touche au plus profond. Il y avait une fois sur les bords du Gers un moulinier et une moulinière qui avaient une fille jolie comme un cœur et honnête comme l'or. Chaque jour, après dîner, ils l'envoyaient garder leur bétail dans les prés qui bordent la rivière. Elle restait là, seule, jusqu'à la nuit tombante. Un soir, qu'elle surveillait ses bêtes assises près d'un saule creux, elle se mit à rêver. À quoi peut rêver une jeune fille dans la fleur de l'âge ? Eh, au garçon, pardi, les époques changent, mais la nature humaine guère. Tout en filant sa quenouille, la petite meunière pensait. J'ai 18 ans sonné. Je suis fraîche, ronde et ferme, comme une poume. Bientôt, un beau gars viendra me demander un mariage et m'amènera sur un cheval blanc. Nous partirons, cheveux au vent. Il sera grand, il sera fort, il sentira le sable chaud. Enfin, vous connaissez le refrain. Et juste à ce moment-là, vient à passer, non pas le fils du roi d'Italie, ni même un prince ou un chevalier. Non, juste un vieux barbu. Une longue barbe blanche. Un pauvre mendiant de rien du tout, bâton à la main et besace sur le dos. Mais, vous savez, il y en a qui brillent avec leurs bijoux ou leurs beaux habits, et d'autres qui brillent de l'intérieur. C'est très différent. Celui-là, toute la lumière du monde est dans ses yeux. « Petite meunière, la charité pour l'amour du Dieu, j'ai fait !» La fille avait bon cœur. Elle lui a donné tout son pain. « Merci, petite meunière. Ta gentillesse aura sa récompense. Je sais à quoi tu penses. Tu te dis, j'ai 18 ans sonné. Je suis fraîche et ronde et ferme comme une poume. Et bientôt, un beau gars viendra me demander un mariage et m'amènera sur un cheval blanc. Nous partirons, cheveux au vent. Il sera grand, il sera fort. Il sentira bon, le sable chaud. Enfin, tu connais le refrain. Paure, tu as deviné juste. Mais qui es-tu ? Petite meunière, je suis Jean du Ramier. Petite meunière, patience. Tu auras contentement. Je vais te trouver le beau gars dont tu rêves. À ce moment précis, un homme, haut d'une toise et noir comme l'âtre, sortit du vieux saule creux. C'était Cago Louis d'Or, un gueux plus méchant que sans diable et qui avait grand pouvoir sur terre. Jean du Ramier ! C'est toi qui te charges de trouver le beau jeune homme, mais c'est moi qui me charge de le présenter à ses parents. Et Cago Louis d'Or aussitôt rentra dans le vieux sur le creux. Et Jean du Ramier reprit son chemin le long du Gers. Alors la petite meunière ramena son bétail à l'étable. Et chemin faisant, elle pensait, il se prépare pour moi de bien bizarres choses. Et c'était vrai. Une heure après le coucher du soleil, la petite meunière soupait avec ses parents. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre sur le toit du moulin et la cheminée se mit à fumer, fumer, fumer. Par le tuyau, on entendit du bruit et tomba dans la pièce un homme haut d'une toise, noir comme l'âtre. C'était Cago Louis d'Or. Bon appétit, brave Jean, j'apporte un mari pour la petite meunière. » Cagot Louis d'Or tira de sa poche une boîte, l'ouvrit et jeta sur la table un pou gros comme un haricot. « Tiens, petite meunière, voici le beau garçon qui vient te demander un mariage à tes parents. » Jean Duramier l'avait choisi jeune, fort et hardi. « Moi, j'en ai fait ce que tu vois. Un gros pou, ce sera ton mari. » Petite meunière, approche, approche. Je vais arracher 3 cheveux de ta tête pour les cacher où il me plaira. Dans 3 jours, je reviendrai. Si tu devines alors où sont cachés tes 3 cheveux, ton pou redeviendra sur le champ un beau jeune homme. Jeune, fort et hardi. Sinon, je te condamne à l'épouser tel qu'il est et tel qu'il restera jusqu'à la mort. Mais tandis que Cagot Louis d'Or parlait ainsi, le pou ne perdait pas son temps. Il grimpait, sans être vu, jusque dans l'oreille de la petite meunière. Alors, il lui souffla doucement, bien doucement. « Petite meunière, n'aie pas peur. Laisse faire Cagot Louis d'Or. Tes 3 cheveux cachés, je me charge de les retrouver. Ainsi, je redeviendrai un beau garçon jeune, fort et hardi. » Cagot Louis d'Or, dit la petite meunière, voici ma tête, prends-y ce qu'il te faut. Et tandis que Cagot Louis d'Or arrachait les 3 cheveux de la tête de la petite meunière et les enroulait autour d'un petit morceau de bois, le mettait à la poche, le pou, lui, ne perdait pas son temps. Il descendait de l'oreille de la jeune fille et se logeait dans les cheveux de son ennemi Cagot Louis d'Or. Ainsi caché, il écoutait et regardait sans être vu. Cagot Louis d'Or partit. Toute la nuit, il marcha, du côté du midi, du côté de la ville d'Auch. Juste à la pointe de l'aube, il était à Auch, au quartier de Saint-Pierre, tout proche d'un puits profond et noir. Là, il regarda tout autour de lui pour voir si nul ne le guettait et prit un des cheveux de la petite meunière et le jeta dans le puits. Mais le pou, logé dans les cheveux de Cagot Louis d'Or, écoutait et regardait, sans être vu. Le premier cheveu ainsi caché, Cagot Louis d'Or s'en alla boire et manger dans une auberge, puis il entra dans la cathédrale de Sainte-Marie et se cacha au bon moment dans une pile de chaises et s'endormit. Mais le pou, logé dans les cheveux de Cagot Louis d'Or, écoutait et regardait, sans être vu. Sur le premier coup de minuit, Cagot Louis d'Or se réveilla. Il sortit de sa cachette, alluma un cierge à la lampe du sanctuaire, enfonça d'un coup d'épaule la porte qui s'ouvre sur les escaliers des tours, monta jusqu'aux cloches, prit un autre des cheveux de la petite meunière et le noua autour du battant du grand bourdon. Mais le pou, logé dans les cheveux de Cagot Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Cela fait, Cagot Louis d'Or rentra dans sa cachette pour ne s'échapper qu'au bon moment, juste à la pointe de l'aube, tandis que le carillonneur sonnait l'Angélus. Mais le pou, logé dans les cheveux de Cagot Louis d'Or, écoutait et regardait sans être vu. Cagot Louis d'Or s'en revint boire et manger à son auberge. Et puis, il repartit, sans trop savoir où il allait. « Attention, se disait-il en marchant. Tâche de cacher encore mieux que les 2 autres ce dernier cheveu de la petite meunière. » Tout le jour et toute la nuit, tout le lendemain, Cagot Louis d'Or chemina, sans jamais pouvoir se décider à choisir une cachette. Au coucher du soleil, il regarda autour de lui dans la campagne. Sans le savoir, il était revenu tout proche de Lectour. « Mille dieux, les 3 jours vont être passés et je n'ai pas encore choisi la cachette du dernier cheveu de la petite meunière. Bah, le mieux est encore de le laisser dans ma poche. Oui. Bien fin qu'il y devinera. Et Cagoluidor laissa dans sa poche le troisième cheveu de la petite meunière. Mais le pouls, logé dans les cheveux de Cagoluidor, écoutait et regardait sans être vu. Doucement, bien doucement, il descendit dans la poche, déroula le troisième cheveu, le noua autour du corps de Cagoluidor. Et cela fait, il remonta vite à son poste. Une heure après le coucher du soleil, la petite meunière soupait avec ses parents. Tout à coup, à nouveau, un grand bruit se fit entendre sur le toit du moulin. La cheminée se mit à fumer, et par le tuyau tomba dans la pièce un homme. Haut d'une toise et noir comme l'âtre, c'était encore Cagoluidor. Bon appétit, braves gens. Petite meunière, les trois jours sont passés. Si tu devines où sont cachés tes trois cheveux, ton pouls redeviendra sur le champ un beau garçon, jeune, fort et hardi. Sinon, je te condamne à l'épouser tel qu'il est, tel qu'il restera jusqu'à la mort. Mais tandis que Cagoluidor parlait, le pouls ne perdait pas son temps. Sans être vu, il quittait son poste, grimpait jusque dans l'oreille de la petite meunière et lui soufflait doucement, bien doucement. « Petite meunière, n'aie pas peur. Je sais où sont cachés tes trois cheveux. Adroitement, bien adroitement, prends-moi dans ton oreille et porte-moi dans ta bouche. Là, c'est moi qui me charge de répondre aux questions de Cagoluidor. » La petite meunière obéit et resta bouche ouverte. « Petite meunière, dit Cagoluidor, dis-moi où j'ai caché le premier de tes cheveux. » Cagoluidor, répondit le pouls dans la bouche de la fille, « le premier de mes cheveux, tu l'as jeté dans le puits d'un jardin, dans un puits profond et noir, à Auch, au quartier Saint-Pierre. » Cagoluidor se mit à rire, mais jaune. « Mais comment tu as deviné ? Avec beaucoup de chance, oui, mais pour les autres, tu n'y arriveras pas, petite meunière. Dis-moi où j'ai caché le second de tes cheveux. » Cagoluidor, le second de mes cheveux, tu l'as noué autour du bâton du grand bourdon de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch. Cagoluidor faillit s'étrangler. « Mais comment ? Peux-tu savoir ça ? Petite meunière, dis-moi où j'ai caché le dernier de tes cheveux. » Cagoluidor, le dernier de mes cheveux, il est noué autour de ton corps. Petite meunière, tu as menti. Le dernier de tes cheveux, je l'ai laissé dans ma poche. Cagoluidor mit sa main à la poche et en tira un bout de bois. Mais aucun cheveu n'était roulé autour. Cagoluidor, c'est toi qui as menti, regarde. Et la fille souleva la chemise grise de Cagoluidor et autour de son ventre. Voyez bien un cheveu d'or de la fille noué comme il faut. Cagoluidor n'en croyait pas ses yeux, il était tout près d'exploser de fureur. Alors, la porte s'ouvrit et Jean Duramier entra. Petite meunière, Cagoluidor a perdu son pouvoir. Crache ton pouls. La petite meunière oublie. Aussitôt craché, le pouls redevint un garçon jeune, fort et hardi. Quant aux cheveux noués autour du corps de Cagoluidor, ils devinrent longs, gros et forts comme un câble. Jean Duramier attacha alors solidement son ennemi à un pilier de la chambre. Hardi, mes amis, prenons un bâton chacun et frappons à grand tour de bras sur l'échine de Cagoluidor. le meunier, sa femme, sa fille et le beau garçon obéirent. Et à chaque coup de bâton, un double louis d'or tombait du cul de cagot louis d'or. Hardi, mes amis, regardez cette belle cagade! Et ils redoublèrent leurs coups. Enfin, au bout d'un moment, cagot louis d'or ne chia plus. Ils arrêtèrent de le frapper et Jean du Ramier le détacha du pilier. « Décampe, bandit, tu n'as plus rien dans le ventre et tu as perdu le pouvoir de mal faire. Vous, mes amis, ramassez tous ces doubles louis d'or. C'est pour la petite meunière. Pas plus tard que demain, j'entends qu'elle épouse ce beau garçon. » Ce qui fut dit, fut fait. Après la noce, Jean du Ramier prit sa besace et son bâton. Adieu, mes amis. Vivez riche, heureux et content. Moi, je pars. J'ai des affaires ailleurs. Et Jean du Ramier partit. On ne l'a revu jamais. Jamais. Mais la petite meunière et son beau jeune homme sur les bords du Gers, eux, on les a vus, ils sont restés. Et ils ont été heureux. Très heureux, voyez-vous, car ils ne se sont jamais cherchés d'époux.
Et le premier poutou, kageri de tabouko, fuguet en calourous, que mon almo déplacé, mon tête de mabouko, d'aïsan commune souko, mon corps s'abandonna tout à ses quatre balayes pares, mon corps s'abandonna tout à ses quatre balayes pares, a comme fa veni cravo, a comme fa cabira, la carouquerie me vale, l'autre la me ventira, a comme fa veni cravo, a comme fa cabira, tous potos comune valo me fan plare bombera. Segun putu, cagheri de tabuco, fughetta calurus che me ravine truco, un almo di mabuco, ci ripeta la surgo, e va chi la caru che me da varo di luco, e va chi la caru che me da varo di luco, a come fa veni cavo, a come fa cambira, la caru che me vai e l'altre la me gira, a come fa veni cavo, a come fa cambira, lo spotusco me da varo me fa pare bomberà. Putu, cagheri de tabuco, fughetta calurus, che mun almo se sglasie, a che lo calurasso, la tres budete in glasso, da valle di munco se torna mai me lutture, da valle di munco se torna mai me lutture. A come fa veni cravo, a come fa cambira, la caruche in me vai e l'altre a me ben gira, a come fa veni cravo, a come fa cambira, tos potos come una valo me fa plare l'opera. Tremputu cagheri de tabuco Fughettan calurus che mun almo se chiliet E da che lo caluluco se rebisculo Tan de caute de frec che mun almo se rauche Luca tremputu, cagheri de tabuco, fighetta calurus che un almo secchiette da che lo caluluco se reviscuro, tane caute de frec che un almo sera o che, tane caute de frec che un almo sera o che, tane caute de frec che un almo sera o che.
Voilà, compte à rebours, c'est fini. C'est toujours rapide, hein, parce qu'en fait, c'est pas si long que ça. Une vingtaine de minutes, 25 minutes, enfin bref. Une histoire de poux, des musiques de toutes sortes. Il y avait quand même à signaler des musiques de Jean-François Tisney, donc, et puis même du Bartas, là, à la fin, hein, l'histoire de Poutou. Voilà. Eh bien, que dire d'autre, ma foi. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao, c'était Marco, compte à rebours. À la prochaine.